Bonjour, vous écoutez Musique en mémoire et nous passons une semaine en compagnie de Bach à Gruyère. Soyez les bienvenus.
Musique en mémoire.
Bonjour David Mestri.
Bonjour Jean-Luc.
Ça fait probablement 10 ans que vous passez vos fins du mois d'août à Gruyère. Vous êtes un fidèle de l'atelier de musique ancienne de Gruyère, dont on fête cette année, dont on fêtait cet été, la 10e édition.
C'est exact. Cette belle initiative qui se déroule depuis de nombreuses années maintenant dans la salle des gardes du château de Gruyère pendant toute une semaine. C'est un atelier de lutherie avec stage, donc des participants qui ne s'y connaissent pas forcément, qui viennent se frotter à la construction d'un instrument. L'instrument doit être réalisé en une semaine et il s'ajoute à un instrumentarium à disposition du conservatoire de Fribourg, oui, dans le domaine des musiques anciennes de l'âge médiéval jusqu'au XVIIIe siècle.
D'un côté, construire un instrument, de l'autre, assister à des concerts, à des propos. L'instrument que vous avez construit cette année, quel est-il ?
Alors, les stagiaires ont construit un dessus de viol, ce qui est un peu en porte-à-faux avec le thème Bach de cette 10e édition, puisque les concerts étaient tous autour de Jean-Sébastien Bach. C'est un peu de saison, hein, quand on arrive à la fin du mois d'octobre, Jean-Luc, on s'approche du
début commence.
Du Festival Bach de Lausanne, dont on parlera d'ailleurs plusieurs fois sur Espace 2 cette semaine et les prochaines. Mais ici, donc, à Gruyère, on construisait un dessus de viol que Jean-Sébastien Bach n'a pas connu. Mais en même temps, pour marquer la 10e édition, il y avait un violoncelle piccolo à 5 cordes, spécialement étudié pour le superbe concert final qui intégrait toutes les œuvres que Bach a composées pour ce petit violoncelle.
Alors, par quoi est-ce qu'on va commencer, David Mestri, dans cette semaine de musique en mémoire ? Par la rencontre du luthier, peut-être ?
Voilà, et des 2 maîtres de stage, puisque Philippe Motterio est toujours au travail à Gruyère depuis ses 10 années.
Oui.
Il est lui-même plutôt luthier de luth, comme on va en parler. Il a fêté cette année justement son 100e instrument et il s'est adjoint l'un de ses propres maîtres, David Van Edwards, un luthier anglais, pour mener les 6 stagiaires de cette année.
À votre micro, donc David Mestri, Philippe Motterio, l'initiateur de cet atelier de musique ancienne de Gruyère.
Philippe Motterio, vous avez quitté alors votre atelier de Bulle pour monter, comme toutes les années, dans vos quartiers d'été. C'est une sorte de boya que vous faites ici tous les étés. Vous préfériez vous installer à demeure ici ou bien vous avez quand même votre préférence pour vos installations? Vous venez de faire d'ailleurs un 100e luth en pleine.
C'est vrai qu'il y a quelque chose que j'aime beaucoup ici, c'est la lumière. La lumière dans la salle des gardes du château, une seule fenêtre, une seule ouverture vers l'extérieur, et la lumière est vraiment malléable. On peut la travailler sur les mains, sur les objets qu'on fabrique très agréablement comparé aux sources de lumière dans un atelier moderne.
Oui, c'est une partie importante finalement, oui, de matière première.
C'est une chose que j'apprécie beaucoup ici, que j'ai découverte.
Il y a des spots aussi au plafond qui sont utiles.
Je parle de l'établi qui est vraiment devant la fenêtre. C'est une luminosité, une lumière particulière.
C'est très important aussi les ombres quand on fait un travail de sculpture sur une pièce de lutherie.
Oui, on travaille en lumière rasante et on joue avec les ombres exactement. Pour les détails de finition, c'est très important.
Ici, ce n'est pas destiné à être transformé en un atelier permanent. Vous imaginez ça ? Vous n'avez jamais essayé d'acheter ou de louer l'un d'entre
eux ? Que je sois en démonstration ici à l'année, vous voulez dire ?
Oui, en démonstration, où vous pourriez fermer la porte peut-être.
Non, je suis quand même bien chez moi. C'est à proportion, à dimension plus humaine qu'ici où c'est disproportionné vraiment. Qu'est-ce qu'il y a, quoi ? 6 mètres de hauteur de plafond. On n'a pas besoin de ça.
Sauf pour essayer peut-être les instruments. Mais... Et puis d'avoir une équipe comme ça de 6 étudiants, 6 stagiaires, ça serait intéressant d'avoir un atelier de maître.
Une équipe de petites mains comme ça qui travaillent. Et qui...
Comme ça devait se faire à l'époque de Henry Jay, j'imagine, non ? Il devait avoir beaucoup d'apprentis et de personnel.
Je connais mieux les ateliers de luth, de fabricants de luth, alors que ce soit à Londres ou que ce soit à Venise, c'est des grands ateliers, on sait par les inventaires après décès. Qu'il y a en stock par exemple 800 instruments et qu'on sur 4 étages dans une maison magnifique, il y a l'atelier sur 2 étages et sinon c'est des galeries d'exposition où les gens viennent essayer les luths. Donc évidemment ça c'est des ateliers avec un propriétaire qui met son nom sur l'étiquette et en même temps 5, 6, 7, 8 travailleurs qui sont les gens qui font vraiment les instruments. Et Je rêve un petit peu en disant que ce serait une bonne chose pour moi, mais en même temps, je ne sais pas si c'est un monde qui me plairait beaucoup. J'ai vraiment l'habitude de beaucoup faire tout seul et de faire moi-même chaque opération.
Et vous êtes au 101e instrument personnel. Maintenant, vous construisez autre chose après le luth qui a fait l'objet d'une tournée l'année passée
au mois de mars,
Brebis Galantes.
Au mois de mars, c'est l'instrument numéro 100. On est au mois d'août et je viens de terminer le 105.
Ah.
J'ai construit au départ assez peu d'instruments parce que j'ai étudié différentes choses aussi et j'ai poursuivi d'autres voies en construisant peu d'instruments. Et maintenant, depuis peut-être une quinzaine d'années, je suis plus luthier. Je construis entre 6 et 8 instruments par année.
Donc vous avez particulièrement bien avancé cette année puisque vous en avez fait 5 de plus en quelques mois.
Voilà, c'est ça.
C'est plutôt quand même des instruments de la famille des luths et des guitares.
On me commande en général des guitares historiques, des guitares baroques, des guitares romantiques et des luths. Oui, c'est devenu un peu ma spécialité. Ce que je construis le plus, avec beaucoup de plaisir, une espèce de spécialisation, c'est la guitare baroque.
Et les viols, vous en avez fait une ici dans cet atelier il y a quelques années, une basse de viol. Vous en avez fait à titre personnel aussi dans votre atelier de Bulle ?
Oui, en fait, un beau cadeau de la vie qui m'est arrivé il y a 3 ans. Une très bonne violiste française m'a écrit pour me dire qu'elle avait eu un coup de foudre pour un de mes luths, mais qu'elle ne jouait pas du luth et qu'elle souhaitait me commander un dessus de viol. Et moi, j'ai répondu, ça, c'est le magasin d'en face. Moi, je fais des luths. Mais bon, j'ai quand même fait une viol avec David Van Edwards et ça me plaît beaucoup, cet instrument. Mais enfin, bon, il y a de bons facteurs de viol, voyez, avec un tel et un tel à Paris. Et elle m'a répondu, non, moi, je suis mon instinct et c'est ce que j'ai envie, quoi, de vous commander un dessus de viol. Alors, je l'ai fait et puis c'est un instrument qui sonne, effectivement. Bien, alors voilà, c'est parti. Maintenant, cet été, j'en ai fait un deuxième.
Et ça ressemble à cet instrument qui est sur les planches ici, sur les établis ?
C'est pas tout à fait le même modèle. C'est pas Henry Jay, c'est John Hoskins, la même époque, un petit peu avant, et un des autres ateliers londoniens. C'est un instrument qui est un petit peu plus grand, mais c'est quand même un dessus. 2 cm de longueur de corde en plus.
Et David Van Edwards avait l'air de dire à Philippe Mottet que la viol, en tout cas les dessus de viol de cette époque au XVIIe siècle, est plus proche de la lutherie de luth que le violon, qui vient d'une sorte d'autre conception. À cause peut-être aussi du fait que les tables, le dessus, est fait en différentes lamelles, différentes bandes.
Oui, en fait, on découvre de plus en plus de choses sur la naissance du violon, à quel moment l'instrument se sépare vraiment de la famille des viols. Et c'est une particularité des viols anglaises qui a été ensuite très aimée par la facture de viols françaises, de construire la table avec différents lés de sapin qui sont pliés et assemblés, jointés pour faire une table qui n'est pas sculptée dans la masse, qui n'est pas creusée, et qui permet donc d'avoir le bois de fil, d'avoir donc des épaisseurs plus fines et un instrument plus léger, plus sensible, plus sonore finalement. Et ça, c'est typiquement une construction apparentée au fond des guitares baroques voûtées et ou bien au fond des caisses de luth. C'est une manière de construire, un savoir-faire qui est propre aux facteurs de luth, certainement, plus qu'aux facteurs de violon qui sont des sculpteurs.
Qui sont des sculpteurs, mais qui simplifient un peu, on peut dire, la facture. Là, il y a plus de travail de précision avec les joints et tout ça.
Simplifier, je ne sais pas si c'est le mot juste, puisque c'est deux manières de faire très différentes, l'une et l'autre étant compliquées.
Par exemple, le violoncelle à 5 cordes qui va être utilisé cette semaine n'a pas pu connaître le dessus de viol qui est construit maintenant, Philippe Motterio. Ces deux instruments qui sont d'une famille qu'on imagine proche aujourd'hui, mais qui étaient vraiment des concepts différents, aussi pour une musique différente.
C'est complètement différent, oui. La petite basse de violon dont vous parlez, le violoncelle à 5 cordes, c'est un instrument avec une table creusée, sculptée dans une masse de bois, dans laquelle on préserve une épine centrale, une espèce de barre centrale dans le bois même de la table qui fait qu'elle va tenir, que la voûte va tenir, et qui permet de ne pas mettre d'âme entre le fond et le dessus de l'instrument. Le fond a lui aussi une barre centrale.
Pas d'âme, donc en opposition à l'école italienne où il y a toujours peut-être un fond plus fin et puis une barre qui relie la table et le fond.
Voilà, donc c'est une manière de construire du sud de l'Allemagne et de la Suisse aussi, qui est redécouverte et pas depuis si longtemps. En fait, on suppose que pas mal d'instruments ont été construits sans âme, l'âme étant une invention du XVIIe italien. Et donc cet instrument qui sera joué lors de notre dernier concert, ce violoncelle à cinq cordes dans le style de la Alemannische Schule, est un instrument par sa structure qui est complètement différente de la petite viole qu'on construit ici à l'atelier cette année, qui est un instrument de type anglais avec une table très fine et qui tient par un assemblage de planches rigides par la structure, par la construction et non pas par leur masse.
Jean-Sébastien Bach, Philippe Mottet, est un des derniers compositeurs à utiliser la viole, la basse de viol en l'occurrence dans sa musique. On est vraiment au déclin de cet instrument. Il compose plusieurs morceaux pour ce violoncelle piccolo, comme on l'appelle aujourd'hui, mais ce terme n'existe pas chez lui. Il y a, je crois, un terme assez mystérieux qui dit « viola pomposa », dont on n'est pas tout à fait sûr de ce qu'il recouvre.
Oui, en fait, je ne sais pas si quelqu'un sait exactement ce que c'est une viola pomposa. On sait par contre que le violoncello piccolo est à cinq cordes et que c'est un instrument qui est plus court, qui est piccolo, parce que la cinquième corde est une corde plus aiguë et que donc elle doit être un petit peu plus courte. On ne peut pas avoir une corde qui sonne bien si elle est trop longue, elle casse. Alors, ces violoncelles avec une aisance de jeu dans le registre aigu plus grande, l'instrument auquel il destine sa sixième suite, qui est très difficile à jouer sur le violoncelle à quatre cordes, violoncelle moderne, est plus aisé sur le violoncelle à cinq cordes. Et Bach, semble-t-il, a beaucoup aimé cet instrument. Et régulièrement, il l'a utilisé comme voix qui dialogue avec le soliste dans ses cantates.
Et sous le vocable de violoncello ?
Violoncello piccolo, en général c'est ce qui est noté, y compris pour la sixième suite.
Je me souviens que les premiers instrumentistes qui ont voulu rejouer cette suite sur cet instrument-là ont utilisé des instruments d'études pour enfants, des instruments qui sont moins restés jusqu'à aujourd'hui.
Alors le terme de violoncelle d'études pour enfants, c'est une conception moderne. Sous quelle dénomination ils ont été construits, c'est un peu difficile à savoir. C'est des instruments violoncelles avec un diapason court et peut-être à l'origine avec cinq cordes qui ont souvent été ensuite modifiées pour en avoir plus que quatre. Comme ils étaient plus courts, ils étaient joués par des dames ou par des enfants. Mais quelle réalité historique ça recouvre, c'est difficile à dire. Il y a aussi une évolution, et peut-être vous trouverez durant la semaine des interlocuteurs plus compétents pour en parler, qui défendent que la viola pomposa, c'est une espèce de tout petit violoncelle qu'on tient plutôt sur l'épaule ou sur la poitrine, l'instrument qu'ils appellent da spalla, et que la sixième suite dite pour le violoncelle est plutôt jouable et doit être jouée sur des instruments encore plus petits que le violoncello piccolo et que l'on joue
comme un alto.
Oui, un alto tenu plus bas et tenu par une corde autour du cou. Bon, voilà.
Parce que viola pomposa, c'est le terme qui est sur la sixième suite ou sur des partitions d'orchestre ?
Je ne sais pas.
Well, we're building a treble viol. Philippe has told you everything.
Eh bien, nous construisons un dessus de viol. Philippe vous aura tout raconté, probablement. Ce n'est que le deuxième jour. Je pense que ça se passe bien, mais ce n'est que le début. Nous avons fait les côtés, les éclisses, la partie extérieure de l'instrument, et ceci est le morceau du manche pour joindre les éclisses au manche. C'est une petite pièce de bois, assez compliquée, mais assez importante. Et nous allons coller ceci dessus bientôt. Puis quelqu'un là-bas est en train de faire une encoche sur le dos de l'instrument. Quand ce sera fait, nous mettrons le fond et quelqu'un là est en train de creuser la tête de Charles Ier, peut-être. C'est intéressant pour cet instrument. L'original ressemble vraiment au roi Charles Ier d'Angleterre. Et on sait que Jay, le luthier, a fait une famille de viols pour Charles Ier. Donc, c'est possible. L'original est à Leipzig. Au musée des instruments de musique de l'université, il n'est apparu au jour que dans les 10 dernières années environ. Et des amis l'ont mesuré, et nous travaillons d'après leurs dessins.
Et cette pièce que vous avez là, donc, va être aussi décorée, sculptée ?
Oui, elle va être sculptée très soigneusement. Elle doit se placer comme un négatif de cette forme-là. Donc c'est assez dur à concevoir et c'est plus ou moins terminé. Donc, ce bout va sur le manche ici et celui-là est à l'intérieur. Et ces deux surfaces incurvées ici, je vous montre, elle s'adaptera ici.
Et tout le décor, David Van Edwards, sera copié exactement d'après le modèle ou est-ce que vous avez une certaine liberté?
Pas exactement, c'est légèrement agrandi parce que l'original est très petit. Il y a une théorie selon laquelle il y avait deux diapasons et ce modèle était probablement pour le diapason standard le plus haut, le plus petit. Donc nous l'avons agrandi pour qu'il serve mieux à l'avenir. Selon la règle générale, cet instrument serait à l'octave aiguë de la basse de viol et la dimension normale pour une viole de gambe serait de 70 cm environ de longueur de corde et celui-ci aura donc 35 cm.
C'est la différence entre un par-dessus de viol et un dessus de viol ou à peu près
Eh bien, le par-dessus de viol, qui est un petit instrument très français pour des spécialistes, était utilisé d'habitude, non pas dans le consort, mais comme instrument soprano spécialisé. Et celui-ci, ce n'en est pas un. C'est ce qu'en Angleterre, nous appelons un treble, donc un dessus. Le par-dessus serait encore plus petit.
Donc il y a plusieurs grandeurs de dessus. Il n'y a pas un standard vraiment à l'époque, David Van Edwards.
Oui, il y avait plusieurs standards. Et en Angleterre, nous pensons qu'il y a au moins deux diapasons standards distincts, séparés d'une carte, mais rien n'était standardisé vraiment à cette époque. Et donc nous essayons d'imposer nos idées de standardisation sur eux. Il me semble. Et il se pourrait bien que chaque canton ou chaque région avait son propre diapason, en fait, qui dépendait de l'église locale et de son orgue.
Et vous êtes plutôt un luthier de luth, vous, personnellement, mais vous faites souvent des viols ?
Non, pas souvent, mais j'en ai fait et j'ai appris à beaucoup de gens à faire des viols. Et j'adore la musique pour viol, mais je suis bien un spécialiste de lutherie, de luth.
Philippe Motério a dit tout à l'heure que le violoncelle à cinq cordes, qui va être joué aussi, qui est au centre de ce festival, est plus difficile à faire qu'une viole. Ça demanderait trop de travail pour une semaine comme ici.
Oui, c'est vrai, oui. Parce que la viole que nous construisons a en gros un fond plat. Et la table est faite de pièces de bois plates qui sont incurvées et pliées. Donc c'est un processus différent, mais beaucoup plus de travail physique de construire un violoncelle. Parce que vous devez creuser des quantités de bois à la force du poignet et puis vous devez contrôler les choses et donc à la fois le fond et la table sont incurvés de cette manière et c'est beaucoup plus de travail. Donc ce que nous faisons ici, c'est facile.
C'est vous qui aviez fié la basse de viol il y a quelques années ici. Et c'est aussi plus simple qu'un violoncelle.
Oui, le son n'est pas plus simple, mais le procédé de fabrication est différent. Pas plus simple, je pense, mais moins de travail. Ça demande aussi moins de bois. Je soupçonne que la viole en Angleterre, en tout cas, a inventé la table inclinée pour réduire la quantité de bois spécial importé, parce que c'est exactement la moitié de quantité utilisée en moins que violoncelle pour une viole de gambe basse.
que vous nous dites alors, David Van Edwards, c'est que les bois d'Angleterre n'étaient pas aptes à la lutherie, il fallait les importer.
Yes, certainly for the front.
Certainement, pour la table. Le fond, nous avons de très bons bois, et pour les côtés, les éclisses, mais pas pour la table. C'est beaucoup mieux avec des bois suisses, des bois français, des pays alpins. Et je pense qu'on a toujours su cela et que les gens importaient ce bois.
Déjà à l'époque de Charles Ier ?
Yes, exactly. And we were importing,
oui, et nous importions surtout des luttes en grande quantité d'Allemagne et d'Italie. Et je pense que c'est à cause du bois en partie. Nous avions des fabricants de viols, donc sans doute ils faisaient des viols, mais nous ne connaissions aucun facteur de lutte en Angleterre au XVIe et au XVIIe siècle.
C'est l'épicéa qui forme la table de devant. C'est quel bois?
No, it's spruce. Yes, épicéa. So it's pinus.
L'épicéa, oui. Picea excelsis, en Suisse et dans les pays voisins.
Neighboring countries.
Et les bois que vous utilisez pour cet atelier, vous savez d'où ils viennent ? Ils viennent d'ici aussi ?
Oui, yes, that's has come from the.
Ils viennent de l'entreprise française Le Bois de Lutry à Fertan, en Franche-Comté. Mais les côtés, le fond et le manche viennent d'Angleterre.
Have come from England.
Vous aviez été, il y a quelques années, aussi le maître du stage où vous avez fabriqué une guiterne,
yes.
Si je me souviens bien, David Van Edwards. Et vous aviez changé la forme de la sculpture qui orne le manche pour
un
extraterrestre,
yes,
en hommage à Giger, qui est célèbre ici à Berlin.
Right, yes.
Vous n'avez pas eu l'envie de couper la tête de Charles Ier, de mettre
here we have an example we're following.
Non. Ici, nous avons un exemple que nous suivons. Et il me semble approprié d'utiliser le modèle. C'était juste que pour la guiterne, il n'y avait pas de volute de tête pour l'original, juste une forme de gland. Mais nous savons de l'iconographie qu'elles en avaient, souvent des têtes diaboliques. Et nous avons pensé, c'est tout trouvé. Et si nous avons quelque chose de diabolique, nous avons demandé à Giger, et il a dit oui.
Et ce n'est pas une figure diabolique, celle de Charles Ier, c'était avant qu'il soit décapité, hein, je pense.
Oui, il était le chef de l'Église et du pays, et il est possible que l'original ait été fait pour lui, donc il n'était certainement pas considéré comme maléfique.
Mais peut-être sous Cromwell, on n'aurait pas pu montrer...
L'instrument date d'avant Cromwell, avant le milieu du XVIIe siècle.
Mais l'instrument a dû être caché, peut-être, pendant l'époque du commandement.
Il a été perdu, nous ne savons pas comment il est arrivé à Leipzig, ni d'où il venait.
Vous creusez l'arcade sourcilière de Charles Ier d'Angleterre. Alors là, bonjour.
Bonjour. Oui, il paraît que c'est la tâche qu'on m'a assignée, là, de lui donner une tête un peu humaine.
Quel est votre nom?
Bois. Je m'appelle Jérôme.
Stagiaire, donc, cette année à Gruyère, c'est pas la première fois?
Non, c'est la deuxième. Alors, je viens tous les ans depuis l'année passée.
Et vous avez une formation de base en sculpture de bois ou...
Non, informatique. Oui. Mais je fais ça dans mon temps libre et puis... plus intéressant que l'informatique, je trouve.
C'est assez éloigné, en tout cas. Je pense pas que Charles Ier aurait imaginé la civilisation informatique.
Non, mais il y a un point commun à tout ça. C'est l'idée de création et le travail de l'ingénieur, de produire quelque chose, un résultat, et, si possible, bon, élégant et bien fait. Mais c'est vrai qu'on s'en éloigne passablement. Là,
ça n'a pas été modélisé, cette tête sculptée. C'est simplement un dessin.
Non, c'est modélisé dans l'esprit. Et ça va beaucoup mieux comme ça, je crois. Et puis c'est fait petit à petit, on essaye un peu, on enlève par-ci, par-là, puis finalement ça commence à ressembler à quelque chose, mais c'est un travail de longue haleine.
Avec ses moustaches et sa barbe, effectivement.
Oui, en plus il a un faciès un peu particulier.
Est-ce que c'est une caricature? Pas tout à fait, non.
J'ai pas connu le personnage à l'époque, mais...
Je pense pas qu'on avait le droit de caricaturer le chef de l'Église d'Angleterre et de l'Empire.
Je sais pas, mais je sais qu'en tout cas, sur les cathédrales, il se privait pas de retailler le portrait des notables, mais bien haut, là où on pouvait pas les voir depuis le sol.
Of course, no, it's good, I think.
Il y a un collage qui est effectué en ce moment.
Oui, là, c'est l'opération délicate, en fait, parce que... Voilà, on a mis la colle, elle va sécher tout de suite, donc il faut vite vérifier que tout est bien mis, éventuellement retoucher.
C'est les éclisses qui sont collées en ce
moment ? C'est les éclisses qui sont en train d'être collées.
Les côtés de la viole.
Voilà, et là, c'est la pièce de renfort sur laquelle viendra se mettre le manche.
Une pièce importante pour faire tenir ensemble tout l'instrument. Il faut que ce soit bien fait, sinon le manche va tomber, ou je ne sais pas.
Et on voit que l'éclisse est encore assez éloignée du morceau, non?
Alors, il y a un bout qui va être coupé en biseau. C'est une particularité de la viole. Il y a cet angle sur le haut du fond, contrairement au violoncelle, qui s'appelle le renversement.
Donc ce qu'on voit, ça va être coupé encore, ce qui est sur le bout, et puis c'est pressé du côté où l'éclisse doit vraiment rester sur l'instrument.
Oui, alors moi je découvre aussi cette construction, mais donc là où ça va être coupé, on peut se permettre d'avoir des petits écarts, mais je pense que dans les points critiques, ça a l'air de jouer et ça va bien coller.
Quelle est la colle qui est utilisée?
De la colle de dos, non?
D'os ou colle de peau?
Colle de peau.
Pas laquelle?
Skin glue, hide glue.
Skin of what?
Cow. Mad cow.
De la colle de vache folle.
Yes.
Qui sent très 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 bon.
Oui. Following the mad cow problem, there was a lot of debate about this glue and they started to use pig, but it wasn't as good. It's not as strong.
Donc ça vient de la peau de la vache, David Van Leeuwenhoek, c'est ça?
Well, yes, the pig glue is
la colle de cochon est obtenue avec de l'acide ou de l'alcool, je ne me rappelle pas lequel. Et la vache est traitée avec l'autre. Et la colle de vache est nettement plus solide.
Mais quel est le problème si la vache est folle?
Well, it's a protein.
Eh bien, c'est une protéine. Une protéine qui a mal tourné. Et indubitablement, elle véhicule les prions dangereux si cette protéine provient d'une vache folle. Mais nous ne mangeons pas de cette colle. Voilà pourquoi il faut se laver les mains. Les problèmes sont venus avec les gens qui produisaient des emballages de médicaments avec cette colle, et nous, pauvres facteurs d'instruments, nous en avons souffert. Mais la réaction initiale a été d'acheter en Amérique du Sud, où il n'y avait pas de vaches folles. Mais maintenant, je pense que les gens sont moins inquiets et que les vaches folles se sont éteintes.
Ça pourrait expliquer pourquoi certains violonistes de l'époque baroque étaient réputés fous comme
Veracini ou Vivaldi. That was Paganini. I don't think he'd be.
Je ne pense pas que Paganini mangeait de la colle.
Je croyais qu'on utilisait aussi le lapin, non, la peau de lapin.
Ah non, ce sont les fabricants de peintures qui utilisent la colle de peau de lapin. Je pense que c'est plus souple, c'est utilisé pour réparer les tableaux, pour enduire les canevas. Nous n'utilisons en général pas de rabbit skin glue.
Colle de lapin.
Et c'est vous qui avez fabriqué cette colle de vache, David Van Allewaerts?
Je crois que c'est assez compliqué. Pour nous, c'est facile. Nous achetons simplement la poudre et nous la diluons dans de l'eau, mais il y a toute une quantité de purifications qui sont faites. Certainement que la colle commune utilisée par les menuisiers est tellement puante et dégoûtante, même celle-ci sent mauvais, parce que Philippe Motterio utilise de la colle d'os. Moi, je prends de la colle de peau, qui ne sent pas si fort. Mais ce pot contient de celle de Philippe. Ce sont d'abord les fabricants allemands, comment s'appelle-t-il ? Hamel, qui fabrique la colle, et c'est, je pense, plus ou moins comme de la gélatine en cuisine pour la viande engelée, etc.
For aspic and everything else.
Et c'est la colle qui était utilisée dans un atelier de lutherie anglaise où on faisait ses viols au 16e siècle.
Yes, yes, they would have used the same.
17e plutôt.
Yes, yes, yes.
Oui, il y a des descriptions médiévales au sujet de cette colle, donc c'est très ancien. Il y a des colles comme celle-ci qui ont survécu dans les pyramides. C'est donc une des substances les plus vieilles et elle tient pour toujours. Vous pouvez l'enlever 400 ans plus tard, simplement en mouillant, c'est vraiment une colle miracle.
It's a miracle glue.
C'est toujours mieux que tout ce qu'on peut faire synthétiquement aujourd'hui, David Van
Allewaerts. Oh yes, it's much much better. It's as strong as modern glues. The only disadvantage.
Non, c'est beaucoup mieux. Ce sont les colles les plus solides encore actuellement. Le seul désavantage, c'est que les insectes et les microbes et les champignons peuvent vivre sur cette colle.
If the instruments are kept dry, it will live forever.
Mais si les instruments restent au sec, elle durera pour toujours. Elle est vraiment excellente et solide. Et aussi, elle sèche, dure comme du verre, très dure. Et elle transmet les vibrations d'un morceau de bois à l'autre, beaucoup mieux que les colles modernes, qui sont un peu caoutchouteuses. Et donc absorbe les chocs entre deux pièces de bois. Et donc les colles blanches modernes sont vraiment inefficaces. En plus, elles glissent sous une pression prolongée, elles bougent parce qu'elles sont encore gommeuses. Et donc celle-ci est la seule colle pour la facture d'instrument.
Est-ce qu'il faut penser que les fabricants de viols de l'époque baroque espéraient que leurs instruments durent des siècles déjà? Ils les construisaient pour cela?
Non, probablement pas, je pense. Parce que nous avons une culture historique aujourd'hui. Nous regardons vers le passé. Je pense qu'en général, ils ne regardaient pas en arrière, spécialement à la période baroque. Les musiciens regardaient vers le passé, à la Renaissance. Ils s'intéressaient à recréer les effets que la musique avait sur les Grecs. Et donc, ils se tournaient musicalement vers les anciens pour dire, voyons, si nous pouvons contrôler les passions de la façon dont il était rapporté, que le maître de musique d'Alexandre pouvait contrôler ses passions, il y avait ce type d'intérêt théorique, mais en général, les gens ne s'intéressaient qu'au moderne, à la nouveauté, à ce qu'il y avait de mieux. Si vous aviez un vieux luth, vous le modifiez, vous le remettiez au goût du jour. C'est donc une culture de musée. Nous sommes dans un musée ici. Que de regarder en arrière, d'une certaine manière, peut-être pas très saine, mais c'est intéressant de recréer ces instruments du passé.
Et si ces instruments ont duré certains jusqu'à aujourd'hui, dans les musées surtout, ce n'est pas voulu par les constructeurs. C'était vraiment des instruments faits pour durer.
Je suis sûr qu'ils seraient enchantés, très heureux, mais probablement surpris.
Possibly not expected.
Quelle est l'année de fabrication de, du modèle que vous utilisez ici, David Van Edwards?
1600. Oh, what was the question?
L'année de fabrication de l'année du modèle.
De cet instrument. Instrument. Yes, 1609, I think. 1620. Je vais voir.
Yes. 1629, donc c'est l'époque de la après l'époque élisabéthaine. Les musiciens comme Lowes et Hume ont pu utiliser des viols de ce genre. C'est un peu plus tard, ça.
Jenkins.
Oui, Jenkins, c'était un peu avant.
C'est la génération juste après les Élisabéthains et avant les baroques comme Lowes. Lowes, c'est un peu ces années-là.
William Lowes, c'est exactement cette époque. Il est mort au siège de Chester en 1645. C'est exactement la période. Il était royaliste. Il aurait pu voir cet instrument.
Il était royaliste. Et à l'époque de Jean-Sébastien Bach, on utilise encore... Bach écrit pour des dessus de viol, encore, il y a des instruments de cette forme pour Bach?
Je crois, non. I don't think so. I think it was just the bass viol. So he wrote six sonatas for bass viol. And they will have been...
Je crois qu'il n'a écrit que pour la basse de viol. Il a écrit trois sonates pour la basse de viol. Et c'était, je pense, pour une viole de gamba six cordes. Je ne suis pas sûr à 100%. Elles sont peut-être écrites pour la viole française à sept cordes. Parce qu'après cette période de suprématie des Anglais, la musique et l'intérêt pour les viols et la facture ont passé chez les Français, qui ont agrandi un peu l'instrument en ajoutant une septième corde. Et ils ont aussi changé un tout petit peu la structure avec la barre à un endroit différent, mais sinon ils utilisaient la même méthode anglaise. Et je pense que c'est ces viols que Bach a connus, mais il pourrait aussi avoir connu les allemandes, faites par Tilke et ses élèves à Hambourg, et il pourrait avoir utilisé celles-ci, qui sont de construction complètement différente, plus semblables à un violoncelle.
Donc le violoncelle à cinq cordes, piccolo, qui va être joué en fin de semaine, n'aurait pas pu connaître le dessus de viol que vous allez construire?
Non, seulement de nom. Et par l'aspect extérieur. L'aspect est le même, mais la structure est beaucoup plus proche des viols de Tilke.
Il y a des grandes différences d'école nationale alors de construction de viol dans ce XVIIe siècle, David Van Edwards. La viol anglaise est différente de la viol française et de la viol allemande?
Oui, la grande différence est entre la viol en Angleterre et en France et la viol en Allemagne. Là, il y a une grande différence de construction, d'esthétique et tout le reste. Les Français ont vraiment repris la méthode de construction anglaise qu'ils ont légèrement modifié, ils ont changé la direction de la barre du fond, ajouté une septième corde et un peu changé la forme, mais c'est essentiellement une viole anglaise. Et ils admiraient la viole anglaise puisqu'ils l'ont adaptée pour leurs besoins.
C'est inhabituel, d'habitude on a plutôt des têtes de femmes sur les viols. Mm-hmm. Et là on a un bonhomme avec une petite barbiche et...
Le propriétaire, oui.
On peut imaginer, oui. Mais...
Je sais pas. Le propriétaire ou le quoi, on ne sait pas.
Le commanditaire. Pour le moment il a un gros bonnet sur...
Oui, après, mais vous allez lui faire toutes ces boucles, ça serait un travail de précision aussi. Il a une très belle, l'original a des très belles volutes dans les cheveux, du très belle coiffure bouclée. Et
on dirait des feuilles, presque une couronne de laurier, oui, plus ou moins.
Des sortes de choses tressées, comme si c'était attaché.
Avec un ruban à l'arrière, oui. Ouais.
Ça fait penser presque à des coiffures africaines, hein, le dessus là, avec des points et des traits.
Oui, un peu égyptienne ancienne aussi. Ouais. Ah, je vais essayer de faire ça si j'ai les outils adéquats. Et,
vous n'avez pas de peigne?
De peigne, non. Je crois pas, non, pour ce genre de coiffure. De toute façon, ça irait pas. Mais on a plein d'autres choses ici sur la table, alors je pense qu'on devrait arriver à s'en sortir d'une façon ou d'une autre.
Vous tenez prêt là avec trois petites listes qui sont en érable. Ça va être quoi au final sur l'instrument?
Alors ça va être la fin de la table en fait. On en a largement parce que, bon, si des fois il y a des erreurs, on se trompe. Mais en fait, La table, elle est donc en 5 morceaux.
Un peu comme un luth et non pas une pièce entière comme on imagine d'un violon.
Il y a plus de parenté avec le luth qu'avec le violon ici pour la table. Parce que le violon, elle est toujours en une ou deux pièces normalement. Donc ici, c'est vraiment des bandes qui sont collées ensemble.
Et donc là, il va falloir qu'on choisisse laquelle on prend pour faire la dernière partie qui nous reste.
Et puis le chevalet est déjà posé, mais c'est pour l'exercice.
Oui, c'était, je sais pas en fait, je les ai pas vus placer, mais c'est assez intéressant en fait, parce que on s'aperçoit que sur le violon, souvent c'est en deux, t'as une ligne centrale, le chevalet passe pile entre les deux, et là, la dimension est quand même faite telle que ça va tomber pile avec les pieds
en l'air
et qui tape à cheval sur les trois bandes. Ouais.
Et donc, elles vont être recourbées au fer chaud, c'est ça, pour donner le bombé de la table.
Je ne sais pas comment un fer chaud s'appelle.
Oui.
Ça, c'est à peu près à 100 degrés, quelque chose comme ça. Puis on appuie. Et ça se déforme très lentement. Il faut être très patient, il faut être assez prudent. Si on déforme trop, ça se casse au milieu et puis on peut recommencer. C'est pour ça qu'il y a peut-être un peu de réserve ici.
Et là, vous en avez trois. Vous allez la choisir selon quels critères, alors là?
Si moi je devais choisir, je choisirais la couleur qui correspond bien. On a un peu du plus brun ici contre là, alors par exemple celle-là, mais ça c'est David qui va choisir.
Ça c'est de l'épicéa, c'est ça?
C'est de l'épicéa, oui.
Il très joliment ondé, c'est vrai. Hein.
D'après d'autres critères.
On alterne une bande plus claire, plus foncée, plus claire, plus foncée.
Ça, c'est peut-être difficile avec l'épicéa, parce que l'épicéa, elle est quand même assez uniforme comme couleur.
Et ce sera verni à la fin, une sorte de couleur rouge, vous savez?
Oui, en théorie. En théorie, on aura tout fini à la fin de la semaine, verni, voire il est joué dimanche.
Et le vernis sera très coloré, très foncé?
Ça, j'en sais rien du tout. Ça.
Je ne suis même pas sûr, parce qu'on a vu des luttes où la table est juste cirée à la fin, et puis pas vernie. Alors, si elle est cirée, c'est clair, on fait des taches d'eau dessus, s'il y a de l'eau qui tombe dessus. Mais bon, c'est toujours traité avec beaucoup de soin, un instrument comme ça. Les violons sont vernis, mais les luttes, je ne suis pas sûr, absolument. Ouais.
Mais la viole, dont je vois des photos, est d'une couleur assez foncée, tout de même. L'original au musée, elle est assez foncée, je ne sais pas si c'est l'âge qui lui a donné cette couleur.
L'épicéa fonce avec l'âge, évidemment.
J'en comme les chalets, en fait.
Les vieilles maisons, elles sont brunes, assez foncées. Et aussi, les intérieurs de maisons en sapin sont aussi foncés à l'âge. Tandis que quand c'est tout frais, c'est presque blanc, jaunâtre. C'est pas très beau quand c'est frais, mais à l'âge, ça vient beaucoup plus beau.
Donc on peut imaginer qu'une petite viole, un dessus de viole ainsi au XVIIe siècle était beaucoup plus clair que ce qu'on a l'idée aujourd'hui.
Très certainement, mais ça on n'en a plus que les nouvelles qui ont l'aspect des nouvelles du XVIIe, du XVIIIe siècle. Oui, c'est juste.
Vous avez construit le moule spécialement pour cet instrument, David Van Anoort?
Yes.
Tout frais?
Yes. First time it's been used. Yes. I haven't built this particular model before. So,
je n'ai pas encore construit ce modèle-là auparavant. Donc il fallait faire un nouveau moule.
No, it's that's and I haven't I've only done heads, large heads.
Je n'ai sculpté que de grandes têtes, des portraits, jamais de petites pour des violons encore. Je ne peux pas vous donner de conseils.
I can't advise.
C'est plutôt des têtes féminines qui sont généralement sur les instruments.
Non, pas du tout. It's another one.
Non, une autre viole du même luthier a une horrible tête d'homme qui crie. Avec son visage tordu de douleur ou d'horreur, il y a une tête de pirate sur un instrument du musée de Genève.
Yes.
Et on reconnaît le pirate parce qu'il a un œil bandé.
Yes, exactly. Well, he looks like a pirate. And
exactement, il a l'air d'un pirate, un air vicieux.
Vicious. Yes.
Donc il y a beaucoup d'hommes.
Moi, j'ai vu surtout des femmes, alors. Oui. Dans les livres.
C'est vrai que sur les grandes violes, on a quand même aussi souvent des portraits féminins.
Yes. No.
Je dirais que les hommes et les femmes sont à égalité sur les têtes de viol.
Quand il n'y a pas de moustache, c'est plus difficile, évidemment, de savoir le sexe.
Oh, well, no, this is clearly...
Non, c'est assez clair. Celle-ci ressemble aux peintures de Charles Ier avec barbe et moustache.
With the beard and the moustache.
Et la coiffure, je disais tout à l'heure, est assez
étonnante.
Non, ce n'est pas une coiffure. Ce sont des feuilles de laurier pour montrer qu'il est un des grands et honoré. Il porte les lauriers.
Et on portait, les rois portaient vraiment des feuilles comme ça posées sur leurs cheveux?
Well, usually they showed. Yes. But this is a laurel.
Eh bien, d'habitude, oui. Bon, ici, c'est une couronne de laurier. On voit une boucle de cheveux qui dépasse dessous la couronne. Oui, c'est tout couvert de laurier. Vous pouvez voir très clairement les feuilles ici.
Fairly clearly here. And the drawing shows it.
Le dessin le montre.
You can see that it's a kind of laurel wreath.
Vous pouvez voir que c'est une sorte de feuille de laurier. J'ai un dessin d'autres viols.
The head. Is it like a Greek fashion? There.
Ah, yes.
That's the...
Like a monster.
Yes. And he's got,
il a une sorte de verrue sur son visage.
Well, but he also has the bay leaves.
Et il a aussi des feuilles de laurier.
So, yes. I didn't take a copy of
et je n'ai pas pris de copie d'autres vues. Et un nez énorme.
And a huge nose.
Okay. Merci, je laisse okay. À votre travail, merci.
Thank you.
Nous sommes donc au cœur de cet atelier de musique ancienne de Gruyère. de quoi sera-t-il question demain, David, et qu'est-ce qu'on va entendre maintenant?
Après cette fantaisie anglaise signée de l'ensemble Suonar Parlante du violiste Vittorio Guelmi, on va plutôt parler de clavecin demain et du château de Gruyère en lui-même, où Bach n'a jamais vécu, malgré le titre de cette série, Bach à Gruyère. Et pour l'instant, on va rester avec des viols qui sont inspirés de Henry Jay, le luthiste qui est à l'origine du modèle copié dans cet atelier de musique ancienne par David Van Edwards et son équipe. Et c'est l'ensemble Les Witches qui propose ces pages de l'Angleterre du XVIIe siècle.
Nous laissons Bach à Gruyère jusqu'à demain. David Maestri, nous vous remercions de nous faire participer à cet atelier de musique ancienne, 10e édition. Grand merci aussi à Christophe Seiva pour sa réalisation, à Isabelle Watson pour son assistance à la production. Et puis, demain, nous continuerons d'assister à l'élaboration de cet instrument et au reflet de ses concerts. Musique en mémoire, proposition de Jean-Luc Rieder.